Alors à Genève et en Europe et aux États-Unis, il y a un mouvement autonome de femmes lesbiennes qui s'est développé, un mouvement séparatiste de femmes lesbiennes, séparatiste vis-à-vis des hommes, mais aussi séparatiste vis-à-vis des femmes féministes, donc du mouvement féministe. Cela veut dire que beaucoup de femmes lesbiennes ne se reconnaissent plus dans le mouvement féministe et font ainsi bande à part. Alors j'aimerais bien qu'on retourne en arrière au début du MLF et qu'on voit un peu comment les femmes lesbiennes se sont situées par rapport à l'homosexualité. Et il me semble qu'il y a eu un moment dans l'histoire du mouvement des femmes à Genève où il y a des femmes qui étaient dans le MLF, qui étaient féministes et lesbiennes, qui ont rejoint les hommes homosexuels dans le groupe qui s'appelait en ce moment-là, il s'appelait Phare. Et puis qu'il y a eu un moment, une tentative au moins de mener une lutte ensemble. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé?
Il y a toujours eu plus ou moins un groupe de lesbiennes au MLF. D'ailleurs, on peut rappeler qu'il y avait pas mal de lesbiennes qui ont initié les MLF un peu partout dans le monde. Et puis, ce groupe de lesbiennes existait et je ne sais plus comment ça s'est fait à un moment, qui a pris des contacts, mais toujours est-il qu'il y a des PD qui sont arrivés et on s'est dit, on pourrait essayer de faire quelque chose ensemble. On a peut-être un peu les mêmes problèmes, on aime les gens du même sexe que le nôtre. À l'époque, ce n'était pas encore très très clair, on n'avait pas encore pris assez d'autonomie pour savoir que ça n'allait pas durer très longtemps. Mais en fait, on a aussi fait cette tentative de travailler à un moment donné avec les PD, comme ça a été fait un petit peu partout aussi. Mais très vite aussi, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose en commun avec eux. On avait commencé à travailler sur un montage homo-visuel, comme on l'appelait. Et puis tous ces PD, on sentait très bien qu'ils étaient quand même assez épatés par le MLF, toutes ces femmes qui se révoltent, etc. Puis vous avez de la chance, nous on n'a pas un mouvement comme ça pour les hommes, etc. Puis on sentait qu'ils étaient un petit peu à la remorque, qu'en fait on les fascinait un petit peu quelque part. Et puis très vite, aussi au bout d'un moment, on a vu qu'ils ne supportaient pas ça non plus très bien de ne pas être les initiateurs de tout. Et ils commençaient vraiment à prendre beaucoup la parole, à avoir envie de faire vraiment ce qu'eux voulaient d'une manière qui à nous ne nous plaisait pas. Et puis assez vite, au bout de quelques mois, il y a eu une scission qui avait été assez violente. Puis par la suite, quelques années plus tard, au moment où il s'est agi de voter la nouvelle loi sur le certificat de bonne vie et mœurs, à ce moment-là, le groupe des PD d'ici, le GOG et le GL à l'époque, ou est-ce que c'est déjà.
Oui,
C'était encore le GL. On a pris plusieurs contacts, on avait fait pas mal de publicité, on avait convoqué une conférence de presse et on avait travaillé ponctuellement pour lutter enfin expliquer aussi aux gens ce qu'était cette loi sur le certificat de bonne vie et mœurs, mais en fait c'était très ponctuel et depuis lors on n'a plus. Vraiment, maintenant, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à faire avec eux.
Puis c'est à partir de ce moment-là que vous avez mis le paquet dans le MLF. Et puis
On avait déjà mis le paquet. On mettait le paquet déjà
avant. Ouais. Mais il n'y avait plus d'ambiguïté. C'est-à-dire, vous aviez tiré la conclusion que vous donniez la priorité au féminisme plutôt qu'au lesbianisme ou en lutte.
Non, parce que le groupe GL a continué à exister, mais de façon autonome, donc sans les types. Pour moi, ce n'était pas ou les types ou le féminisme, ça ne se posait pas comme ça.
Et à la suite de ça, il y a eu la grande épopée du MLF triomphant. Vous, les lesbiennes, vous êtes intégrées dans le MLF et puis vous avez été, pas seulement vous, mais les lesbiennes dans tous les mouvements de femmes, ont été le moteur de ce mouvement. Elles ont été très actives et très radicales. C'était, disons, une garantie que la lutte, que la lutte ne lâche pas, disons. Mais en même temps, l'ensemble du MLF, il a quand même exprimé une lutte assez radicale. Il n'y avait pas que les lesbiennes qui ont porté en avant une critique du rôle dégueulasse des hommes et qui, dans ce sens, vous avez, disons, la radicalité des lesbiennes a détaché sur l'ensemble du mouvement. Mais c'est aussi vrai que le MLF, dans son ensemble et dans le monde entier, quand il s'est agi de lutter sur des revendications précises et de les pratiquer, de les négocier, de les porter dans la rue, il a porté en avant des revendications comme l'avortement libre et gratuit, les crèches, toute une série de revendications, le salaire ménager, qui étaient liées à l'hétérosexualité, plus qu'à l'homosexualité, plus qu'au lesbianisme. Mais dans ce mélange de lutte où tout était mis en cause, il y a quand même eu un débat sur les hommes. Et les hommes, ils ont été mis en cause, moi je pense, assez radicalement par le MLF. Et il y a eu un débat sur est-ce que les hommes sont l'ennemi principal ou est-ce que c'est le système qui est l'ennemi principal et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que les femmes dans leur ensemble, on s'est mis assez vite d'accord pour dire que, bien sûr, que pour dire que, bon, même s'ils sont conditionnés, même si l'homme est conditionné, éduqué à être un oppresseur et avoir le rôle qu'il a dans la société, il n'en reste pas moins que c'est lui qui est oppresseur et c'est contre lui qu'il faut lutter aussi. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est à partir de cette analyse un peu sur cette discussion qu'il y a eu sur le rôle des hommes, comment vous vous situez-vous en tant qu'homosexuel par rapport à la question des hommes, c'est-à-dire par rapport au rôle des hommes, par rapport à la critique des hommes, pendant cette longue période où le MLF était fort, où il y avait des milliers de femmes qui descendaient dans les rues, où il y a eu toute cette critique assez forte des hommes.
Moi, ce que j'ai vécu, c'est que, en fait, c'est par le féminisme que je me suis reconnue lesbienne. Alors, sur les premières années, et toutes ces revendications sur l'avortement et d'autres revendications comme ça, en fait, j'étais dedans parce que pour moi, ça voulait dire, c'est une prise de pouvoir de la femme. On disait d'ailleurs, oui, l'avortement, c'est reprendre son droit contre le père, le curé, le professeur, on faisait toujours toute une liste comme ça, le psychiatre, l'expert, etc., etc. Et dans ça, je pouvais me reconnaître, dans cette mesure-là. Maintenant, rétrospectivement, je pense que pendant toutes ces années, c'est vrai que j'ai quand même tué mon lesbianisme et que chaque fois qu'on m'a dit « Mais écoute, ça n'a rien à voir, c'est une préférence sexuelle, ça n'amène rien dans ce sujet, ne brandis pas ton flambeau » ou des choses de ce genre, je l'ai chaque fois écrasé. Maintenant, je m'en rends très nettement compte. Mais en fait, malgré ça, je pense quand même que par mon attitude, par mon genre de vie qui refusait déjà à ce moment-là l'hétérosocialité, je pense que j'étais une des personnes quand même qui tirait assez fort dans une remise en question dure des mecs. Même si je faisais pas partie moi-même d'un groupe de conscience et si je venais pas épancher moi-même les problèmes avec un partenaire que je n'avais plus.
Ouais, moi j'ai vécu aussi un petit peu ça, sauf que moi, bon, je suis lesbienne depuis toujours, et puis je l'ai dit effectivement très très tard, et à des personnes qui étaient au MLF, et ce qu'on m'avait conseillé c'était d'aller voir des psychologues, alors je trouvais que c'était quand même un peu gros, et c'est peu après que j'ai enfin rencontré deux ou trois personnes qui étaient comme moi, que je croyais que j'étais la seule au monde, et en fait, moi je suis arrivée au MLF dans l'espoir de rencontrer d'autres femmes qui étaient comme moi, et je pense que féministes et autonomes et reconnaissant le rôle que les mecs jouent dans cette société, je le sentais depuis très petite, mais c'était pas vraiment conscient. En fait, j'en ai pris conscience au MLF, et c'est vrai que j'ai pas loupé une seule manif où on criait sans arrêt avortement et contraception, libre et gratuit, des choses comme ça, des crèches, un centre femme. Vraiment, j'ai tout fait, mais quelque part, il me manquait vraiment quelque chose. Et à l'époque, avec les quelques lesbiennes qu'on était, on était vraiment trop faibles et toujours renvoyées à un problème mineur et sexuel. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu manqué, même si je me sentais féministe et tout, il y avait quelque chose qui allait pas. Maintenant, c'est différent.
Mais c'est aussi vrai que c'est souvent des lesbiennes dans le MLF qui ont amené des choses comme SCUM, par exemple. Society for Cutting Up Men. Et ce genre de discours, c'est souvent les lesbiennes qui l'ont amené, l'élément qui était le plus provocateur, disons, dans la manière de manifester son opposition contre l'homme dans cette société. Et puis ça, je pense que c'était dynamique. Mm-hmm. Ça provoquait des choses de dire ça.
Mais pendant les premières années du MLF, du féminisme, on a beaucoup parlé des hommes, il y avait vraiment une critique très très forte des hommes, il y avait une prise de conscience de qui on était nous, mais aussi de qui était le rôle qu'avaient ces hommes qui étaient proches ou moins proches de nous. Et puis, est-ce que vous arrivez à re-raconter, à redire comment vous avez vécu cette période de critique du rôle des hommes et de mise en cause et de mouvements là autour que actuellement apparemment ça s'est un peu estompé dans le mouvement féministe.
Mais moi je peux dire que dans cette période-là en tout cas je m'y reconnaissais même en tant que lesbienne parce que on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Il y avait des copines qui divorçaient et on l'aidait dans cette situation de reprendre le contrôle sur elle-même, de prendre cette décision et de le faire. Il y avait des copines qui, dans un divorce, se reconnaissaient lesbiennes. Il y avait des problèmes avec la garde d'enfants, des conflits et on allait et on la soutenait. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui bougeait et à ce moment-là, on pouvait tout espérer. Et c'était peut-être plus acceptable qu'il y ait la contradiction à l'intérieur, qu'il y ait des femmes qui retournent, qui ne sentent pas la force ou comme ça, parce qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Tandis que après les années 76, 77, on n'a plus du tout senti ça. C'était plus quelque chose de présent. Et à ce moment-là, je pense que c'était plus difficile pour nous de nous y sentir à l'aise et ayant une place.
Mais comment vous avez vécu, comment vous vous situez concrètement par rapport à ces luttes pour l'avortement, pour les crèches, pour le salaire, pour l'assurance maternité, pour toutes ces revendications qui ne vous concernaient pas directement, vous, en tant que femme lesbienne, et qui concernaient plus les femmes hétérosexuelles, les femmes qui ont des relations avec des hommes, qui ont des enfants, qui sont... Ouais.
En tout cas, moi, je peux dire pour moi qui ai milité dans un mouvement des femmes dans une petite ville que d'une part, j'étais déjà la seule lesbienne dans ce groupe-là, ce qui veut dire que mon identité n'était jamais prise en compte dans ce groupe, que la meilleure des choses qui pouvait se passer au niveau de mon identité de lesbienne, c'est qu'il m'arrivait d'en parler quelquefois en privé avec ses copines, mais qu'à jamais cette parole était entendue en groupe et discutée en groupe. Et bon, effectivement, moi, j'ai aussi participé très activement à toutes ces revendications de femmes, parce que je me sens toujours très solidaire des femmes, encore maintenant, et je me sentais solidaire à cette époque-là aussi, mais c'était toujours dans l'idée que ces femmes-là aussi allaient revendiquer des trucs plus spécifiques pour lesbiennes, en même temps que nous, ou parallèlement à nous. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça, et ça explique aussi pourquoi maintenant, nous, les lesbiennes, on est devenues autonomes par rapport aux féministes.
Bon, maintenant, à la lumière de ce que vous êtes devenu, de ce que vous avez choisi de suivre comme voie, c'est-à-dire de développer un mouvement autonome et séparatiste de lesbiennes, est-ce que vous arrivez jusqu'à dire que vous avez subi une espèce d'impérialisme des féministes sur vous en tant que lesbienne, dans le mouvement féministe? Est-ce que vous avez là-dessus des souvenirs ou des mauvais souvenirs ou bien des témoignages sur cette division entre féministes hétérosexuelles et lesbiennes qui, à la lumière de ce qui se passe maintenant, apparemment pour vous, ne peuvent plus lutter, en, disons, ensemble, ou qu'elles ont besoin d'un moment de séparation.
Mais moi, c'est vrai que j'ai pas mal de souvenirs et j'en ai d'assez mauvais, mais en fait, pour pas les raconter tous et puis pour faire un peu un survol, moi, ce que je me souviens, c'est que tout au début, on était vraiment complètement coincés, en tout cas moi aussi personnellement. On a vécu la mutualité à Paris en 72, j'étais la seule lesbienne de Genève qui allait là-bas. Et je me souviens très bien que dans la voiture, au retour, on m'a accusée de ne pas être assez triomphante, etc. Comme les Gouines Rouges qui étaient montées sur la scène à Paris et tout. Puis au fait, on était, je crois même pas qu'à l'époque j'étais encore dans le groupe des lesbiennes. Puis peu après, on a passé aussi, comme le MLF, par une période un peu triomphaliste et de revendication comme ça. Et nous, les lesbiennes aussi. Je me souviens, dans certaines manifs, on sortait certains slogans, on avait une certaine manière d'être, et on tombait dessus en nous disant « Mais qu'est-ce que vous avez à prôner comme ça, le lesbianisme ?» Enfin, ça choquait aussi. Puis en fait, ouais, on n'était pas allés nulle part. Et on sentait aussi que les féministes n'étaient pas non plus toujours d'accord de partager les risques qu'on courait ou que les trucs soient donnant-donnant. Et je me souviens aussi qu'elles avaient aussi peur d'être traitées de sales lesbiennes. De toute façon, le MLF, c'est un nid de lesbiennes. Ou dès qu'on essayait de dire, mais enfin, c'est comme une fou, à l'anticongrès, que la fête de l'anticongrès soit mixte. Et là, je me souviens que j'avais vraiment pas du tout supporté. Je me suis fait traiter de sales lesbiennes par des féministes. En fait, c'était assez pénible parfois. J'ai senti assez peu souvent une grande solidarité, par contre, peut-être plus maintenant qu'on a pris nous notre autonomie et qu'on a pu plus s'expliquer aussi, peut-être.
Mais il y a eu par exemple un slogan qui était repris par l'ensemble du MLF, c'était « On est toutes des lesbiennes », justement pour le retourner contre ceux qui voulaient nous diviser en disant
Moi, je n'ai jamais entendu.
Moi, je me souviens aussi de longues discussions qu'on avait au groupe des lesbiennes de ça. Mais si on fait vraiment un journal, mais est-ce que tu crois vraiment que les copines hétéro, elles vont nous aider à le vendre, ou bien est-ce que c'est nous qui allons nous retrouver chacune en allant si possible loin de son boulot pour distribuer ce journal et tout. Et je me souviens que cet élément-là, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être soutenu par le reste du mouvement, nous a à plusieurs reprises retenu de faire des choses et entre autres de sortir ces journaux qu'on a essayé pourtant, dont on avait rassemblé des textes au moins deux ou trois fois de suite. Donc, je pense que d'un certain... Moi, ce que je me souviens de ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on n'existait simplement pas dans le mouvement. Et à partir du moment où on a commencé à exister, et indéniablement, c'était un des éléments moteurs et radicaux du mouvement, très vite, on nous a renvoyés comme un boomerang. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est la nouvelle norme. Vous nous imposez... C'est elle, en fait, qui réagissait contre, soi-disant, notre impérialisme. Vous nous imposez que c'est la seule solution, que la seule chose qu'on peut faire, c'est de devenir toute lesbienne, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut dire comme ça, etc., etc. Et ce contre-courant-là, il a été tellement fort que le temps d'après, on n'existait de nouveau plus.
Oui, mais le mouvement féministe, il était quand même petit à petit là, et il a été traversé par des tendances très différentes. Il y avait des femmes qui étaient séparatistes, qui défendaient politiquement la non-mixité des lieux, des groupes féministes, qui défendaient beaucoup l'idée que c'est aux femmes de s'organiser entre elles, et puis que c'est pas avec les hommes qu'on organise quoi que ce soit, qu'on gagne quoi que ce soit dans la lutte. Mais il y en avait, c'est vrai, qui n'avaient pas la même idée, qui étaient aussi organisés dans des groupes politiques mixtes, qui avaient une double militance, et qui, par exemple, à l'occasion de l'anticongrès, à des occasions comme ça assez significatives, ont montré qu'elles tendaient plutôt à dire il faut que les hommes soient dans les... Disons, ouais, elles étaient moins pour le séparatisme. Mais dans toutes ces mouvances, il y a aussi eu beaucoup de femmes, bon, je dirais pas beaucoup, mais il y en a eu, qui sont devenues lesbiennes par le féminisme, c'est-à-dire qu'elles ont eu une prise de conscience, et puis que dans ce mouvement où les femmes, elles ont pris conscience de qui elles étaient, puis elles ont commencé à dire, enfin, être femme, c'est beau, être femme, c'est une force, ensemble, on est forte, etc. Elles ont aussi commencé à prendre conscience qu'on pouvait aussi s'aimer et avoir des rapports sexuels et vivre une vie tout à fait fantastique entre femmes. Et puis ça, ça a aussi été une composante et un résultat du mouvement. Donc on ne peut pas dire que, on ne peut pas nier que le MLF a été traversé par une forte remise en cause des rapports hétérosexuels. Et que on peut pas faire un bilan complètement négatif de la mise en cause de l'hétérosexualité dans le mouvement des femmes. Il y a quand même eu des femmes qui sont devenues lesbiennes à travers le mouvement, et ça c'est vrai. Mmh. Mais celles qui sont restées dans l'hétérosexualité ou dans la bisexualité, c'est-à-dire qui ont navigué un peu d'un sexe à l'autre, mais celles-là, vous ne trouvez pas normal qu'elles n'arrivent pas, c'est-à-dire ces femmes qui ont choisi de continuer à avoir des rapports avec les hommes, des rapports sexuels, mais aussi sociaux, des rapports conflictuels de toute façon, vous ne trouvez pas normal que ces féministes-là n'arrivent pas à résoudre définitivement les problèmes et les contradictions qu'elles ont avec les hommes. Je trouve pas normal qu'elle continue donc à avoir des rapports, elle continue à vivre des moments de révolte, des moments de déception, et puis après des moments des moments de rapport de force, comme des moments intéressants, sont contradictoires. Je trouve pas que ça, pour moi, ça fait partie de la vie, ça fait partie des changements qu'une partie des femmes féministes ont décidé d'impulser à la société, à leurs relations. Donc ça fait partie de la société. Ça fait partie aussi des résultats que la lutte des féministes a amené dans nos vies, c'est-à-dire des rapports qui changeant avec les hommes.
Mais si tu dis ça, ça veut en fait dire que tu trouves que c'est normal que les femmes continuent à être perdantes sur cette planète, quelque part. Parce que si elle pouvait continuer à avoir des rapports avec des hommes, et mais que le mouvement continuerait et qu'on verrait une progression venir, alors effectivement, oui, ça pourrait paraître possible. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, dire que c'est normal, oui, c'est accepter que les femmes restent en position de faiblesse dans cette planète. Et ça, je pense que ce n'est pas normal, non ?
Moi, je pense qu'elles se sont surtout accommodées des hommes. C'est ça le changement. C'est qu'elles ont changé un tout petit peu, qu'elles s'en sont accommodées. Mais on ne peut pas dire que cette énergie mise là à s'accommoder de toutes sortes de rapports avec les hommes fasse changer les choses. C'est comme si on acceptait une forme de statu quo en s'accommodant les choses le mieux possible.
Puis aussi une chose qu'il faut peut-être préciser, c'est que comme tu parles, c'est comme si à un certain moment, les lesbiennes s'étaient détachées du féminisme, étaient allées faire autre chose. Mais en fait, que moi j'ai vécu, c'est que le féminisme s'est éteint. C'est-à-dire que le féminisme, au bout d'un certain nombre d'années, n'arrivait plus à être suffisamment moteur au niveau du rôle des femmes par rapport au rôle des hommes. Et puis maintenant, on en a un contre-courant qui revient très très fort, comme on peut voir chez les plus jeunes et chez les punks, un contre-courant de l'homme fort, baraqué, viril, la femme qui marche à petits pas, etc. Donc, face à tout ça, on peut pas dire vraiment que c'est nous qui nous sommes séparés. C'est plutôt nous qui avons continué d'une certaine façon.
Oui, parce qu'on nous reproche aussi toujours en tant que lesbiennes de lutter maintenant pour le lesbianisme, puis en quelque sorte justement d'avoir largué les femmes en même temps. En fait, c'est faux parce que je pense qu'on se bat bien plus pour les femmes dans nos revendications de lesbiennes que les féministes actuellement qui en fait ne se battent plus tellement pour beaucoup de choses pour les femmes.
Et que les féministes ne sont jamais battues pour les lesbiennes d'ailleurs.
Non, ça en plus.
Et d'ailleurs, quand tu dis « est-ce que c'est pas normal ?», moi j'entends encore une chose, c'est l'hétérosexualité. Quelque part, c'est normal, et puis l'homosexualité, ça n'est pas tout à fait. Je trouve vraiment ce genre de questions extrêmement dangereuses parce que c'est comme ça qu'on a justifié des tas d'oppressions. Au fond, qu'est-ce qui est normal ?
Parce que je voulais simplement dire que c'est... Est-ce que c'est pas normal que quand des femmes décident qu'elles continuent à avoir des rapports avec les hommes, est-ce que c'est pas normal qu'elles continuent aussi à se trimballer des contradictions, des conflits, des problèmes ?
Mais moi je trouve pas, parce que je sais pas, avec tous les outils que toutes les féministes, que toutes les femmes qui sont révoltées contre un tas de choses ont en main, quand il y a les lesbiennes qui s'expansionnent, etc. Je sais pas, il me semble qu'il y a tout en main pour enfin se rendre compte de ce qui va plus. Je trouve pas que c'est normal, ça me paraît pas naturel, disons, c'est pas une conséquence logique. Au contraire, voilà, c'est logique. Moi c'est illogique, anormal.
Parce que effectivement, je crois pas que ces problèmes et ces contradictions, ces conflits, on arrive à les résoudre. C'est-à-dire, c'est ça qui n'est pas logique, c'est que ces problèmes, ils peuvent changer de forme, ils peuvent changer de contexte, de contenu, c'est-à-dire que l'homme, il peut avoir compris certaines choses, la femme peut être beaucoup moins soumise, ça change les termes de la contradiction, mais la contradiction, elle reste. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on se trimballe toujours quelque chose. Ça change, parce que les rapports changent, parce que la société change. Évolue, je sais pas, j'espère qu'elle évolue un petit peu, mais la contradiction, on se la trimballe toujours. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a eu des femmes féministes qui ont décidé à un moment qu'elles en avaient marre de se trimballer cette contradiction insoluble, de se la traîner derrière. Quand elle est, elle se représente tout le temps. Même si on se défend mieux, même si on est beaucoup plus consciente et on vit beaucoup plus notre révolte, notre autonomie face aux hommes, on la vit beaucoup plus réellement, concrètement, cette contradiction, elle ressurgit tout le temps. Donc je pense que, quand je vous posais cette question, c'était pour dire, ouais, c'est logique que la contradiction avec les hommes, elle ne se résolve pas, et puis vous me répondez, c'est pas logique, qu'étant donné que c'est comme ça, il y a encore des femmes qui continuent à vouloir avoir des rapports et négocier des rapports avec les hommes. Parce que c'est vrai qu'on les négocie par moment pas, mais bon. Donc là-dessus, c'est assez clair. Vous m'avez répondu assez clairement. Je crois que j'ai compris. Là, on a parlé des années 70, quand le mouvement des femmes, le mouvement féministe était fort, uni, entre guillemets. Puis vers la fin des années 70, sont nés, par exemple à Genève, mais aussi dans d'autres villes, sont nés des groupes de lesbiennes très forts, très déterminés, qui petit à petit, ils ont décidé d'exister en tant que telles et de poser les revendications spécifiques des lesbiennes. Et à Genève, ça s'est aussi passé. Et puis, ça a amené la contradiction dans le mouvement. Et il y a eu une prise de conscience, de la part des lesbiennes et une espèce d'accusation des lesbiennes envers les féministes qu'il y avait une contrainte à l'hétérosexualité non seulement dans la société mais aussi dans le mouvement des femmes. Et ça a débouché sur une par exemple une manif à Lucerne et à d'autres moments où il y a eu ce refus exprimé non à l'hétérosexualité imposée ou non à la contrainte à l'hétérosexualité qui est apparue dans les manifestations de femmes et qui a été débattue à l'intérieur du mouvement. Et ça, c'est les lesbiennes qui l'ont imposé comme discussion, qui ont imposé et qui ont montré qu'il n'y avait pas de critique de l'hétérosexualité comme contrainte, comme normalité dans le mouvement. Mais expliquez-moi mieux qu'est-ce que c'est cette contrainte à l'homosexualité et
à
l'hétérosexualité. Et puis, ouais, comment ça s'est passé ce moment de contestation?
Je crois qu'on l'a. En tout cas, moi, je l'ai toujours senti, bon, depuis toute petite dans ma famille, etc. Ensuite, je l'ai senti aussi cette contrainte au sein du MLF, mais c'est aussi très diffus. Ça veut dire que très souvent, en tout cas au début, avant qu'on s'affirme beaucoup plus comme on l'a fait depuis 3-4 ans.
Tant que ça restait privé, quoi.
Voilà, il faut que ça.
Restait privé, c'était bien.
Il faut que ça reste privé. Puis cette contrainte, ça se sent aussi dans toutes les discussions, justement, dans toutes les revendications qu'il y avait autour. Et puis, bon, c'était vrai, c'était chouette aussi, ces copines qui remettaient en cause le rôle que jouait leur mec, l'attitude qu'ils avaient, etc. Mais on se sentait quand même toujours un peu en dehors. Et en fait, il y a 3 ans, à la manifestation nationale du 8 mars, il y a tous les groupes MLF de Suisse qui se sont réunis pour organiser la manifestation du 8 mars, et a été proposé comme slogan « Non à la contrainte à l'hétérosexualité ». Et ce slogan a été refusé par la majorité des groupes féministes qui étaient là. Et en fait, c'était la première fois que ce slogan voulait apparaître dans une manifestation large de femmes. Et puis ça a donné lieu... au fait que les lesbiennes n'ont pas supporté et qu'elles ont envoyé des tracts à toutes les lesbiennes, à tous les groupes de lesbiennes qu'elles connaissaient, et que cette manifestation du CERN, on pourra peut-être en parler plus tard, elle a été vraiment très importante et teintée du vert des femmes autonomes et surtout des femmes lesbiennes. Alors, c'est pas nouveau cette contrainte, et puis elle continue, elle existe toujours.
C'est-à-dire qu'en fait, on a imposé notre slogan en venant toutes et en les obligeant de nous avoir en tête de manifestation alors qu'on ne connaissait pas le parcours et ça a été une situation vraiment... la ville dans une situation très particulière. Mais malgré tout, c'était aussi la cassure. C'est-à-dire que le fait que le slogan n'avait pas passé puis qu'il avait fallu faire un coup de force de cet ordre, ça voulait dire aussi que c'était la rupture parce que peut-être le débat a quand même eu lieu. Je ne sais pas s'il a eu lieu, mais en tout cas pour nous, ça voulait dire que c'était la dernière fois qu'on essayait de préparer une manifestation avec des féministes.
Et surtout quand on a voulu aller se défouler à la fête ensuite, c'était une fête avec bienvenue aux hommes. Alors c'était vraiment trop, c'était juste ce qu'il ne fallait pas. Et puis on a essayé de parlementer encore, mais vraiment la discussion, pourquoi mixte, pourquoi non mixte, on en avait mais ras la patate. Et quand on voit que 7 ans encore, c'est toujours à l'ordre du jour, après 10 ans de féminisme, vraiment on en avait marre. Et il y a la moitié, en tout cas la moitié des femmes, toutes les lesbiennes en tête, etc. On a vraiment quitté la salle, il restait plus grand monde dans cette salle. Parce que énormément de femmes sont parties, sont rentrées chez elles.
Mais pourquoi selon vous elles n'ont pas accepté que cette manifestation du 8 mars elle se fasse sous ce slogan, non à la contrainte à l'hétérosexualité? Ça a été discuté ou il y a eu des arguments contre?
Je sais pas, on n'y était pas assez réunions.
De Bonoblitz qui y était à ces réunions.
Il y avait d'autres revendications prioritaires.
Ouais, je pense que des raisons bureaucratiques, toutes sortes de manières de déguiser un malaise profond.
Donc, de la mise en avant de votre oppression spécifique en tant que lesbienne dans la société, vous êtes arrivée à une critique de l'oppression des lesbiennes dans le mouvement féministe. Par exemple, cette manifestation de Lucerne, elle le montre très bien. Donc, si je comprends bien, vous avez fait une espèce de bilan de ce qu'était la lutte dans le mouvement féministe et que, bon, vous avez... trouvais que ça n'allait pas assez loin, je crois, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le féminisme et que le féminisme se donne pas les moyens de détruire, de lutter vraiment efficacement contre l'hétérosexualité. Est-ce que vous pensez que les féministes ont trouvé dans le féminisme les moyens de s'accommoder de l'oppression? Parce que selon vous, l'hétérosexualité, c'est l'oppression. Donc, comme suite logique du raisonnement, parce que de ce point de vue, il y a réformisme féministe et radicalisme lesbien. Est-ce vrai? Est-ce que c'est, selon vous, ce qui se passe actuellement dans le mouvement des femmes?
Moi, je pense que dans un certain sens, oui. Pour revenir toujours sur ces slogans et comment ils ont évolué, je pense en fait que les slogans sur l'avortement, qui étaient les premiers slogans que les féministes ont sortis, ils étaient assez provocateurs parce qu'ils étaient de se reprendre ce ventre. Et au point où on était à ce moment-là, c'était vraiment très provocateur. Par la suite, ces slogans-là n'ont plus été prioritaires et autour des années 76, 77, si je me souviens bien, les féministes ont commencé à vouloir parler de tout et ne plus être centrées seulement sur ces questions de ventre. Elles se revendiquaient aussi le droit de parler plus largement. Il y a eu les revendications écologiques qui ont commencé à être mêlées, ou politiques plus larges. Non, la santé, je pense encore que c'était les premières, puisque c'était encore l'avortement, contraception, ces choses-là, c'était encore le début. Et dans cette manière par cette manière de faire, dans un moment justement où par-dessus le marché, il n'y avait plus beaucoup de groupes de conscience et les rapports avec les mecs n'étaient plus discutés à l'intérieur du mouvement, c'était en fait c'était trop tôt. C'était trop tôt, trop faible. Et
qu'est-ce qui était trop tôt, Christine?
Je pense que c'était trop tôt pour renoncer à mettre sur le plan de prioriser la lutte contre les hommes et la position des femmes. Je sais pas, enfin c'était difficile peut-être de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de quoi, mais le fait est qu'au même moment, les rapports avec les hommes et la pression qu'on peut exercer sur eux par ces rapports et ce qui se passe, c'était plus l'aspect prioritaire, et les autres aspects ne faisaient pas le poids.
Donc, selon vous, les féministes, elles se sont accommodées de l'oppression, c'est-à-dire elles ont trouvé des espaces, des techniques, des façons de survivre dans des rapports hétérosexuels. Elles ont trouvé... C'est ça votre analyse?
Moi, je pense que si. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Que dans la mesure où les hommes ont vraiment profondément absolument pas changé, que eux aussi ils sont adaptés un minimum pour pas perdre absolument toutes les femmes, et leurs femmes en particulier, je pense qu'effectivement, on peut parler que d'accommodement.
Selon vous, donc, on peut rien changer à la situation des femmes si on continue à avoir des rapports sexuels, des rapports affectifs, amicaux, ou des rapports sociaux avec les hommes? C'est ça?
Oui.
Et pourquoi?
Parce que je pense que le seul pouvoir qu'on peut avoir sur les hommes réellement, c'est justement de les écarter totalement de notre vie. Que c'est qu'à partir de ce moment-là que vraiment peut-être une fois ils réfléchiront sur leur identité et qu'ils se remettront réellement en question. Mais tant que par d'autres biais ils arrivent de toute façon à obtenir à peu près ce qu'ils veulent des femmes, ils n'ont aucune raison de changer et de vouloir abandonner leurs privilèges, ça c'est sûr.
Il faut les mettre plus au pied du mur. C'est pas possible à la fois qu'un changement ait lieu en même temps qu'on continue à laver leurs chaussettes.
Ou en faire le père de ses enfants, mais ça n'arrive pas avec.
En faire le père de ses enfants.
Finalement, ils gagnent tout là-dedans.
Mais est-ce que Est-ce que, selon vous, à vos yeux, la bagarre, la lutte quotidienne, et pas seulement la lutte quotidienne, mais aussi la lutte plus large que encore un grand nombre de femmes féministes mènent contre les hommes, vis-à-vis des hommes, elle n'est pas visible à vos yeux, elle se voit pas. Parce que moi, je pense qu'il y en a une, et puis qu'elle est très dure, elle continue d'une façon plus souterraine, mais moi je trouve qu'elle est visible dans la société.
Donne-moi un exemple.
Ben, un exemple, c'est qu'il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de femmes autonomes qui prennent en main leur vie, qui savent se défendre, qui, se, qui se révoltent contre un tas de situations et qui ne vivent plus les mêmes choses avec les hommes qu'elles pouvaient vivre il y a 10 ans. C'est-à-dire que la limite, elles mettent des limites, elles ont des exigences, elles ont tout en entrant dans des, en entrant dans des rapports contradictoires et dans des rapports problématiques. Parce que c'est vrai que avec les hommes, c'est toujours problématique, qu'ils soient sympas ou qu'ils soient moins sympas. C'est problématique parce qu'il y a un rapport de force, ça je suis bien d'accord. Mais pour vous, c'est invisible, vous vous en tenez pas compte.
Ou alors peut-être elles y mettent vraiment absolument toute leur énergie, mais en tout cas, c'est pas l'addition de beaucoup de ça qui permet d'arc-bouter un réel rapport de force.
C'est presque la perte d'énergie aussi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut...
Moi, je vois effectivement qu'une infime minorité de femmes peut-être arrive à assumer une autonomie face aux hommes qui est effectivement assez forte, mais je dis bien que c'est une infime minorité. Quant à la plus grande partie des femmes qui, comme tu dis, peut-être n'acceptent plus exactement toutes les mêmes choses, qu'elles divorcent, etc., qu'elles essayent de construire leur vie avec plus d'autonomie, je trouve assez relatif. Parce que ce que je me rends compte surtout, moi, c'est que les femmes, effectivement, peut-être acceptent moins de choses, mais elles vivent toujours par rapport aux hommes, peut-être qu'elles changent plus souvent d'hommes. Mais finalement, elles subissent toujours les mêmes choses, simplement que c'est un peu nuancé, que c'est coloré différemment, et qu'elles, en fait, elles passent d'une illusion à l'autre en permanence. Mais qu'au fond, rien ne change, et les rapports de force ne sont jamais à leur avantage, de toute façon pas. Elles arrivent peut-être mieux à biaiser, mais sans plus.
Et puis, vous ne pensez pas que... Bon, c'est très difficile de parler des hommes en général, parce qu'il y a toute catégorie d'hommes, mais qu'en général, il y a eu des changements, et puis que ces changements... Ils ont été provoqués. Ce changement d'attitude, de comportement de la part des hommes, puisque ces changements, je suis bien d'accord, je suis bien consciente, c'est les femmes qui les ont provoqués. Et puis, ce n'est pas des changements définitifs. Ce sont des rapports de force qui durent tant qu'il y a des femmes fortes qui tiennent le rapport de force. Ça, je suis bien d'accord que c'est jamais garanti, que c'est jamais définitif. Mais il y a des changements qui se répercutent dans les lois aussi, dans des réformes, dans la société à plus en général, on sent qu'il y a les limites de ce que les femmes acceptent, de ce que les femmes désirent, de ce que les femmes veulent, elles se sont déplacées. Et que donc les hommes, ils ont dû changer.
On n'a pas
certains rendu. Hommes. En apparence.
Oui, mais je crois qu'ils n'ont pas beaucoup changé. Je pense effectivement, je ne veux pas dénier toute progression. Effectivement, une progression, il y a eu. Je ne veux pas revenir en arrière là-dessus, dire que ça ne commencerait qu'aujourd'hui ou que ça ne commencera que demain ou je ne sais pas quoi, mais il me semble que si progression il y a eu, il en reste maintenant les vagues les plus formelles, comme ça, qui n'entraînent plus des changements. Quand on en est à changer des textes de loi au niveau fédéral et comme ça, et qu'en fait depuis plusieurs années ça ne suit plus dans la réalité, c'est vraiment le dernier effet d'un mouvement qui avait été fort quelques années avant, je pense. Par contre, l'hétérosocialité, elle n'a pas du tout rétrocédé ces dernières années, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors là, j'ai du mal à voir où sont ces hommes et quels sont ces changements extraordinaires dont tu parles.
Mais est-ce qu'en faisant le choix du lesbianisme, est-ce que vous pensez avoir résolu les problèmes avec les hommes ? Ou une partie.
En tout cas, pour nous-mêmes, on les a résolus, ça c'est sûr.
À notre échelle, en tout cas.
Ouais. Puisqu'on n'a absolument pas besoin d'eux pour quoi que ce soit. Qu'on a vraiment mis une croix dessus. Par rapport à ça, pour nous, c'est résolu.
Bon, puis, on continue dans cet aperçu un peu chronologique où on essaye de voir l'évolution du féminisme et du lesbianisme. Et puis, on est arrivé au moment où les femmes lesbiennes... Elles ont décidé de lutter, de créer, de développer un mouvement séparatiste, c'est-à-dire séparé du mouvement féministe. Alors, parlons maintenant un peu de ce choix et parlons de ce terme que vous avez réintroduit, c'est-à-dire vous revendiquez le mot lesbienne plutôt que le mot homosexuel.
Je crois que même au tout début du GL, il y a 10 ans, on se disait Bon, on utilisait peut-être plus souvent le mot homosexuel, mais c'était clair dans notre tête qu'on était lesbienne. On avait d'ailleurs fait un tract à l'époque où on disait que si on voulait être une femme autonome, si et si et si, alors on était lesbienne. Mmh. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup plus utilisé, derrière lequel on met beaucoup plus de choses. Et le terme homosexuel, ce qui nous a toujours gêné, c'est que ça fait référence qu'à la sexualité et que Dieu merci, on est vraiment aussi plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, de dire qu'on avait des rapports sexuels avec des femmes, je pense qu'il fallait oser le dire déjà.
Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, le séparatisme lesbien? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'est-ce que vous mettez dans cette idée de séparatisme lesbien? Comment vous le concevez?
Bon, on le conçoit tout d'abord de se mettre dans une situation où on a suffisamment de confiance les unes avec les autres pour être dans une situation qui nous renforce, qui nous permet de développer notre être sans restriction. Alors, c'est favoriser des espaces de lesbiennes. Pour certaines, c'est les lesbiennes qui retournent à la Terre. C'est développer une culture de lesbiennes. C'est toutes sortes de choses, et c'est en même temps vivre dans un monde qui nous permette.
Pour vous, l'homosexualité, c'est un choix de vie total, c'est pas simplement une forme de sexualité.
C'est aussi une forme de sexualité, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'autres choses. Moi, je me sens lesbienne. Enfin, tout le temps, bon, il y a certains moments où je le montre moins parce que c'est pas utile et que vraiment ça n'apporte rien, mais vraiment dans plein d'autres moments, je me sens lesbienne tout le temps et que j'ai besoin de vivre avec des lesbiennes, d'avoir des espaces de lesbiennes dans lesquels je peux m'épanouir et dire ce que j'ai envie. Et c'est vrai que, heureusement, maintenant, de plus en plus, avec le mouvement lesbien qui s'amplifie un peu partout dans le monde, on se sent aussi plus forte et ça, on se sent beaucoup moins seul. On a beaucoup plus de contacts avec aussi d'autres lesbiennes, même outre-mer. Et c'est vrai que dans cette ville, et je pense dans beaucoup d'autres villes aussi, mais spécialement à Genève, on n'a absolument pas d'endroit à nous. C'est vraiment très difficile de se créer des espaces, alors on s'en aménage un petit peu comme on peut, mais vraiment, ça c'est vraiment un objectif primordial pour nous.
Qu'est-ce que c'est plus concrètement ces espaces dont tu dis qu'avoir besoin? Ces espaces, c'est des espaces de vie, c'est des espaces sociaux?
C'est d'abord des espaces de vie pour nous, pour se retrouver entre nous, pour pouvoir vivre un peu comme on a envie de vivre entre nous. Vu qu'on n'a aucun espace réel, que les seuls espaces qu'on a, ce sont ceux qu'on se crée artificiellement. Et que dans l'idéal, bien sûr, ça serait qu'on prenne de plus en plus de force à pouvoir imposer nos espaces au même titre que tous les autres espaces qui existent dans la société.
Et puis, ce que vous avez pris, en tout cas comme premier, c'est un espace de lutte, c'est-à-dire c'est le fait de vous organiser entre vous et de vous donner des objectifs. Vous avez des objectifs, non? Je sais que vous en avez. Vous en avez plein. Vous avez plein d'utopies aussi, de revendications, de choses que vous désirez, vous revendiquez, vous voulez réaliser.
C'est sûr qu'on est toujours très en avant cette question d'espace, parce que c'est peut-être la chose qu'on vit tous les jours le plus durement, mais en même temps c'est vrai qu'on a aussi l'objectif de confronter la société hétérosexuelle par tous les moyens possibles imaginables, dans toutes les situations qui se présentent où c'est possible de le faire.
Expliquez-moi ce que vous faites à Genève, dans votre groupe, ou bien ce qui se passe, ce que font les différents groupes, les mouvements de lesbiennes dans le monde. Il y en a Il y en a aux États-Unis, en Hollande, dans les pays nordiques, en France, en Allemagne. Il y a un mouvement de lesbiennes qui est fort, qui sort, qui se montre, qui existe, beaucoup plus visible et beaucoup plus provoquant que le mouvement féministe actuellement.
Je ne sais pas si on a vraiment une vision d'ensemble ici à Genève pour se rendre compte, mais disons, on connaît peut-être un peu le mouvement lesbien nord-américain, canadien, européen surtout. Et là, on peut dire que, d'une part, il y a eu un véritable renouveau et plusieurs groupes qui se sont lancés, qui étaient des groupes assez radicaux, comme ça a été le cas au Canada et en France, en particulier à Paris. Il y a eu d'autres groupes qui sont plus centrés sur se reprendre des espaces, en particulier retourner à la terre. Alors il y a aux États-Unis des Women's Land, et ici en Europe aussi, je pense qu'il y a des femmes qui...
Il y a beaucoup de terres des femmes.
Terres de femmes.
En Italie, au Danemark.
Terre des femmes, c'est quoi? C'est quoi,
Terre des femmes? C'est des villages de lesbiennes qui se sont repris des espaces, des campagnes ou des villages et qui vivent là, qui travaillent, qui font de l'artisanat, qui voyagent aussi beaucoup pour faire connaître ce qu'elles font et qui vivent dans une autonomie vraiment complète par rapport au monde hétéro. Il y en a de plus en plus maintenant.
Il y en a où, par exemple?
Il y en a près de Florence, en tout cas, la Cetina, je ne sais plus. Et puis il y a...
Cetina.
La Cetina.
Cetina.
Qui est là, dans les Pyrénées. Bon, il y en a, par exemple, en Australie, il y a 3 terres des femmes. Il y en a de plus en plus partout, quoi, vraiment.
Et au Danemark.
Ah oui, au Danemark, il y a une île.
Non, ça c'est encore autre chose. Non, il y a le Finland.
Ah ouais.
Terre des femmes.
Puis qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces terres des femmes, de ces lieux libérés et autogérés, autosuffisants? C'est pas seulement des lieux, c'est aussi toute une structure de travail, de vie.
C'est tellement très différent de ce que nous, on vit ici en tant que rat des villes. Hein, ça donne à un groupe de lesbiennes certainement une allure très différente.
Parce que ça se passe toujours à la campagne.
Presque toujours.
C'est toujours, en même temps, c'est des femmes et des groupes de femmes pour qui le travail avec la terre et puis la reprise d'une certaine spiritualité bien terrestre et simple
est
très importante. Et moi, je trouve ça un aspect très, très séduisant, c'est sûr. C'est vraiment à la campagne qu'on peut retrouver son propre rythme, le sien, et construire son nouvel univers, beaucoup plus qu'en ville.
Et ces femmes qui vivent là, dans ces terres des femmes, elles y restent longtemps, ou bien c'est des lieux de passage, des moments de vie d'une lesbienne, et puis ça tombe assez vite, c'est les femmes des villes qui cherchent une expérience à la campagne, et puis retournent à la ville.
Il y a quelques femmes qui effectivement font des passages où ils vont un ou deux, trois mois, mais la majorité des femmes y vivent depuis quelques années et puis souvent ne vivent plus que comme ça. Ils passent d'une terre des femmes à une autre ou font des projets pour en créer d'autres.
Donc ça. Et puis ça se développe.
Ça se développe de plus en plus. Oui.
Et puis c'est l'idée d'une vie séparée, d'une vie.
C'est l'idée d'une vie totalement autonome.
Autonome.
Totalement séparée de cette société hétérosexuelle.
C'est un peu ça, une des utopies du mouvement des lesbiennes. C'est ce retour à la terre et puis l'autosuffisance, l'autonomie.
Je dirais pas que c'est seulement un retour. Bon, c'est effectivement, on peut appeler ça retour à la nature, à la spiritualité, tout ça. Mais c'est surtout une prise d'autonomie face à l'hétérosexualité qui est bien plus forte, je trouve. C'est vraiment se donner les moyens de vivre totalement indépendante de la société hétérosexuelle et des hommes.
Puis ces femmes, le mouvement des lesbiennes, actuellement comme il se développe, il y a des femmes qui ont passé par toute l'expérience du mouvement de libération des femmes, il y a des femmes qui sont de la génération de 68, etc. Mais il y a aussi beaucoup de femmes des nouvelles générations qui viennent d'autres, mais d'autres expériences politiques, d'autres expériences de vie. Il y a un mélange, c'est vraiment un mouvement différent que le mouvement féministe.
Je crois particulièrement qu'il y a eu une grande rencontre qui a fait que ça a été possible que le mouvement des lesbiennes démarre. Ça a été entre des lesbiennes, comme tu dis, qui avaient connu le mouvement féministe, et des lesbiennes de la même génération, pas forcément plus jeunes, mais qui n'y avaient jamais cru, qui n'y étaient jamais venues.
Qui ne s'étaient jamais senties concernées, en fait.
Qui ne s'étaient jamais senties concernées, exactement. Ouais. Et ces deux groupes-là, je crois vraiment que c'est ce qui a permis au mouvement lesbien de démarrer.
Il y a aussi des femmes toutes jeunes, des jeunes, ce qu'on appelle nous jeunes, parce que nous ici autour du micro, on est sur la trentaine, comme vous pouvez entendre, peut-être deviner. Et puis ces femmes très jeunes, elles sont comment?
Elles viennent d'où? Elles
ont encore moins à perdre.
Oui, ça c'est vrai. Moi, ce qui me frappe surtout par rapport à ces femmes très jeunes, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y en a passablement, de plus en plus en tout cas qui nous rejoignent, c'est, disons, leur capacité d'autonomie qu'elles ont déjà à cet âge-là. Et je trouve que c'est la grande différence qu'il y a entre elles et nous, qui sommes, disons, de vieilles militantes, entre guillemets. C'est justement cette autonomie qu'elles ont eue tout de suite dans leur vie. Et en fait, bon, là, c'est sûr qu'elles ont profité des retombées, entre guillemets, du féminisme. Ça, c'est vrai, ça, on le sent, puis elles le reconnaissent aussi. Mais en même temps, quelque part, aussi, elles comprennent moins pourquoi on met encore autant d'énergie à militer. Par exemple, ces femmes-là, elles ont beaucoup plus tendance à mettre toute leur énergie à créer des terres des femmes, à voyager beaucoup, à vivre d'une manière beaucoup plus. Elles ont beaucoup moins envie que nous de se confronter tout le temps à cette société en tant que militantes, en tant qu'être organisées, etc. Mm-hmm. Quelque part, elles trouvent que ça vaut même plus la peine de se battre à ce niveau-là. Elles préfèrent mettre toute leur énergie à se créer des espaces, vraiment à elles seulement.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le mouvement des lesbiennes, tel qu'il se développe ces dernières années, tel qu'il s'est créé ces dernières années, on peut faire une comparaison entre ce mouvement des lesbiennes et les débuts du MLF. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un mouvement qui se développe par premièrement par une prise de conscience d'une identité de lesbienne. Donc il y a aussi cet aspect, cette composante très internationale, ces échanges, ces voyages, cette importance qu'a le fait de l'identité de lesbienne et de se rencontrer, de savoir qu'on est beaucoup, de savoir qu'on existe dans tous les pays, de cet échange d'expériences. J'ai l'impression que c'est un début. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de revendications fortes qui sortent sous forme de revendications. C'est plutôt la mise sur pied d'un réseau, d'une prise de conscience de ses forces. Et puis j'ai l'impression que vous êtes en train de vous compter, mais au niveau mondial, c'est-à-dire interplanétaire, vous voyagez beaucoup. Vous avez des lieux, je sais pas.
Ouais, moi j'aimerais juste dire quand tu parles que en fait c'est un peu comme le début du mouvement féministe, le début du mouvement lesbien maintenant, puis qu'en fait on n'a pas encore beaucoup de grandes revendications. C'est surtout la création d'un réseau. C'est à la fois vrai dans le sens où effectivement c'est le début d'un mouvement, et puis pour nous c'est très important d'affirmer notre identité, de créer des réseaux et tout, mais où c'est de toute façon différent du féminisme, c'est que nous, étant donné que par rapport aux hommes, c'est-à-dire par rapport à cette société, on a décidé que vraiment on y mettait une croix dessus, qu'on n'essayait par aucun moyen de vouloir arranger des choses avec eux, mais vraiment de vivre en totale autonomie par rapport aux hommes, c'est sûr que par rapport à ça, contrairement au féminisme, on n'a pas des revendications. Pour nous, notre choix, il est fait, il est clair. On ne va pas continuer à se battre par rapport à ça. Nos revendications, ce sera par rapport à nous en tant que lesbiennes.
Oui, c'est un petit peu le slogan qui était en fait le titre du tract de la manifestation de lesbiennes qui a eu à Genève au printemps dernier, où on disait on ne réclame rien du tout, puisqu'aussi bien tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on veut, ils ne l'ont pas. Enfin, je pense que ça résume un petit peu.
Exactement.
Ça, on n'a rien à leur demander, puis de toute façon, ils ne pourraient même pas nous le donner, c'est vraiment à nous de le créer et puis
De le vivre.
Tout à l'heure, j'ai dit que vous avez des vous voyagez, vous faites des voyages, vous avez des relations interplanétaires.
Ouais,
et puis
faux.
C'est pas faux.
Hein. Non, effectivement, les lesbiennes en général sont très liées au cycle lunaire, au cycle des étoiles et tout.
Et je trouve que, toujours en pensant au tract que vous avez distribué à la manif, c'était quand, cette manif?
C'était le 22 mai 82.
82, vous avez écrit, mais si on a déjà envoyé des hommes sur la Lune, pourquoi on ne les enverrait pas tous? Moi, j'ai pensé que ce serait dommage pour la Lune de envoyer tous sur la Lune.
Mais en fait, c'était...
Mais effectivement,
dommage,
c'est une idée.
C'était une image.
Ouais. C'était plutôt le voyage qui compte, pas la destination.
C'était surtout, disons, la Terre qui n'était habitée plus que par des femmes.
Est-ce que vous rêvez à ça?
Dans un premier temps, oui.
Mais pas comme but en soi.
Non. On ne peut rêver qu'à ça quand on voit les hommes qu'on croise dans la rue. Le jour où on croiserait d'autres hommes, peut-être qu'on rêverait à d'autres choses, mais actuellement on peut rêver qu'à ça.
Mais les lesbiennes ne sont-elles pas en train de poser le lesbianisme comme une stratégie de libération des femmes? Comment expliquez-vous le fait que les lesbiennes trouvent cette force d'indication stratégique au moment où la plupart des mouvements de lutte sont déphasés, où plus personne peut donner des indications sur ce qu'il faut faire pour se libérer ou pour lutter contre quelque chose ou pour quoi que ce soit?
Plus personne, sauf peut-être les mouvements de libération nationaux, ceux qui n'ont vraiment plus rien à perdre. En fait, c'est toujours ça la question. Qu'est-ce qu'on a encore à perdre?
Est-ce que vous vous adressez encore aux féministes hétérosexuels quand vous causez, quand vous organisez, quand vous raisonnez, quand vous faites des débats? En fait, quelles sont vos interlocutrices privilégiées dans vos luttes, dans vos discours, dans vos journaux?
Pour nous, c'est clair que c'est en premier les lesbiennes. C'est aux lesbiennes qu'on veut s'adresser et à toutes les lesbiennes qu'elles aient été engagées avec des féministes, avec des PD ou qu'entre elles, dans leurs espaces. De débattre avec les féministes hétéros, c'est plus...
La discussion est très vite bloquée, en fait.
Mais pourquoi?
Parce que tant que les féministes discuteront tout en argumentant pourquoi elles ont encore, elles ont besoin, elles veulent encore des relations avec les hommes, là, on arrive sur un point où on n'est plus d'accord. Où on peut se comprendre l'une et l'autre intellectuellement comme ça, mais où on n'est plus d'accord. Les arguments que les féministes nous donnent à ce moment-là, pour nous c'est tellement évident qu'ils sont incohérents et pas logiques qu'on ne peut pas discuter là-dessus.
Et c'est évident, d'après ce que vous dites, que votre priorité, votre intérêt, il est porté sur les lesbiennes, sur le projet de créer, de développer un mouvement de lesbiennes. Et donc le débat avec les féministes, ça peut apparaître quelque chose qui appartient au passé, quelque chose de...
C'est-à-dire, si ça retentit pour toutes les femmes, tant mieux, ça on en est convaincu, disons. Mais pas plus prioritairement les féministes que les autres femmes.
Mais qu'est-ce que vous entendez par lesbiennes de bar, quand vous dites c'est les lesbiennes non organisées?
Mais c'est des lesbiennes quand même qui... se reconnaissent comme lesbiennes et qui ont une identité claire là-dessus, et qui vont en des espaces très restreints, et très souvent c'est les bars qui sont les seuls espaces qu'elles ont. Mais à la fois, pour nous, c'est quand même des résistantes, ces femmes, parce que ça fait depuis... Il y en a des jeunes, il y en a des beaucoup moins jeunes, et c'est des femmes qui, toute leur vie durant, ont résisté à la contrainte à l'hétérosexualité, au mariage, à toutes ces formes de pression.
Et souvent dans des conditions beaucoup moins privilégiées que nous.
Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut le dire. Ouais.
Bon, vous, en tant que lesbienne, vous refusez l'hétérosexualité, ça j'arrive encore à comprendre, vous arrivez à la refuser. Mais l'hétérosocialité, c'est-à-dire les rapports sociaux économique, politique, disons tout ce qui fait les rapports dans notre société avec les hommes. Comment vous faites pour les refuser? Parce qu'ils sont là, ça doit être difficile, non? Et puis je voulais vous demander aussi, quel rapport avez-vous encore avec les hommes?
Ben, moi je peux dire en tout cas que j'ai pratiquement aucun rapport avec les hommes, que je n'ai pas de rapport avec les hommes. Et quand tu dis comment faites-vous pour refuser les rapports hétérosociaux, ben vraiment, tout ce que je vis, tout ce que je choisis de vivre, c'est avec les femmes, et je ne les vois pas, les hommes. À aucun moment de ma vie, de ma journée, j'ai besoin de quoi que ce soit par rapport à un homme.
Oui, mais ouais. Ton rencontre, tu dois avoir affaire à des hommes parce qu'ils sont partout, ils sont sur les lieux de travail, ils sont dans la société, ils sont dans les lieux de consommation, ils sont dans les lieux de loisirs, ils sont partout. Alors, tu les vois pas, mais eux, ils te voient et ils se montrent. Et comment vivez-vous ces rapports? Parce que, bon, les ignorer, d'accord, mais eux, des fois, ils ignorent pas les femmes.
Bon, ben d'accord. Donc, la plupart du temps, en ce qui me concerne, je les vois pas, je les ignore, réellement. Et quand, effectivement, eux se manifestent de quelque manière que ce soit, alors là, ils me voient. Alors là, c'est sûr qu'ils me voient, parce que je réagis spontanément. Mais la plupart du temps, je ne les vois pas, je les ignore. Je leur donne aucune possibilité d'avoir prise sur moi de quelque manière que ce soit. Quand bien même ils font des tentatives dans ce sens-là, à ce moment-là, ils voient que j'existe.
Ça ne veut pas dire que dans aucun lieu, dans une rue, dans une Migros ou dans notre travail, on ne circule pas à côté d'hommes. Je ne pense pas que le refus d'hétérosocialité, c'est ça. Je pense que le refus d'hétérosocialité, c'est le fait de ne pas habiter avec eux, le fait de ne pas partager ni une vie ni affective, ni aucun lien de dépendance, qui fait qu'après, c'est beaucoup plus possible d'en croiser un ou d'avoir affaire à un, par exemple, au niveau de son travail, aussi parce qu'on est forte de ce qu'on sait, de notre position à nous, et lui, à aucun moment, ne peut instrumentaliser le fait de la différence de sexe d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça qui fait la différence.
Est-ce que vous envisageriez la possibilité de créer, par exemple sur les lieux de travail, des groupes homosexuels mixtes, c'est-à-dire de PD et de lesbiennes, par rapport aux conditions de travail? Comme ça se passe par exemple en France, à Paris, il existe des groupes mixtes de PD et de lesbiennes dans les PTT, dans les CFF, dans les institutions de la santé. Il y a des groupes qui commencent à exister en tant que homosexuels. Par rapport aux conditions de travail, par rapport à la vie dans une boîte, etc.
Ben par rapport au travail, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup. Bon, ça c'est évident que si c'est possible au niveau de la force de faire quelque chose, un groupe uniquement avec des lesbiennes, que c'est évident que je préférais faire comme ça. Mais comme c'est un des terrains aussi les plus durs pour les lesbiennes et les homosexuels, c'est possible que dans un premier temps, on travaille avec les PD, mais je pense que ça ne durerait pas très longtemps parce que très vite aussi, on retomberait dans les mêmes rapports de force et de pouvoir.
À part ça, moi je pense toujours que c'est une bonne chose qu'il y ait des groupes d'homosexuels qui réagissent au niveau de leur travail, d'autant plus qu'il faut imaginer le parcours de ces personnes-là au sein de leur travail, leur lesbianisme caché, leur pédérastie cachée pendant des années, et le fait soudain d'oser le revendiquer. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut distinguer.
Est-ce que vous pensez que le lesbianisme est l'avenir du féminisme?
Non, moi je pense plutôt que ce serait l'avenir des femmes.
Oui, je pense que de dire ça, en fait, ça veut dire que d'une certaine façon, nous espérons plus pour les femmes que les féministes n'ont espéré ces dernières années.
Donc, vous, en disant ça, vous faites un saut et puis vous vous posez à côté, c'est-à-dire que vous ne vous posez pas comme la suite, le mouvement qui sort du féminisme pour faire un saut en avant, mais vous vous mettez plutôt à côté et vous dites, nous, on est ça, et puis on est une alternative pour les femmes, mais vous ne vous opposez pas complètement au féminisme, j'ai l'impression. Non, mais en tout cas, d'après la discussion qu'on a eue, j'ai l'impression que si on veut formuler avec les vieux termes un peu vieux, qui sonnent un peu faux, mais que parfois sont encore utiles, des vieux termes politiques, militants, qui, pour mettre des étiquettes sur des choses, pour pouvoir les nommer. J'ai l'impression que le mouvement féministe, selon vous, et puis aussi selon moi, en fait, et il a été un mouvement qui a développé l'autonomie et un séparatisme uniquement politique, c'est-à-dire uniquement par rapport à comment on lutte, tandis que le lesbianisme, il développe un séparatisme sexuel, donc total, donc sexuel, social, et même politique bien sûr, et même au niveau de la reproduction, je pourrais l'appeler une autonomie reproductrice. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes ces autonomies que vous voulez développer qui forment une nouvelle stratégie que vous dites qu'est pour les femmes, une nouvelle stratégie qui s'appellerait lesbianisme et qui va beaucoup plus loin. C'est dans ce sens que je dis, bon, quelque part, c'est un saut par rapport aux impasses du féminisme parce qu'elle va beaucoup plus loin, elle développe beaucoup plus d'atouts pour les femmes dans la lutte contre le patriarcat, contre les rapports hommes-femmes, contre la société. Et puis il y a cette idée aussi de l'autonomie reproductive, c'est-à-dire, et ça, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qu'est votre vie par rapport aux enfants? Quel est ce projet de élever, faire des enfants en dehors des hommes, en dehors d'une tutelle, du pouvoir des hommes? Comment ça se passe pour les lesbiennes, quels sont vos projets, vos rêves par rapport aux enfants?
Tout d'abord, pour beaucoup de lesbiennes, le fait d'avoir des enfants, ça voulait dire de retourner à une aliénation envers l'homme ou pendant longtemps de devoir l'épouser. Puis quand même après, disons, d'avoir un père, c'est d'augmenter son aliénation en tant que femme. Et puis dans un deuxième temps, il y a la revendication justement d'avoir des enfants en dehors de tout père, de les élever entre nous. Et dans ce sens-là, même si ça constitue quand même toujours un travail, c'est quand même se reprendre une activité, enfin, ce qui transmet quand même la vie, un pouvoir, et qui montre en tout cas d'avoir un certain espoir.
Ce que vous critiquez ou bien ce que vous refusez, c'est la présence, l'existence d'un père. Vous refusez qui est un père, donc qui est un homme dans la vie d'un enfant et qui est un homme qui interfère aussi dans la relation entre la mère et l'enfant, etc. Donc, si je tire la dernière conséquence de ça, pour vous, l'interférence d'un homme ou de plusieurs hommes dans la vie d'une femme et de ses enfants est encore une forme de contrôle et de pouvoir des hommes sur les femmes et les enfants et qu'on n'y échappe pas.
Les plus éloignés, où la femme se réserve quand même une autonomie plus grande qu'en général. C'est une illusion d'imaginer que l'enfant, il aura d'autres schémas dans sa tête.
Donc les lesbiennes choisissent, soit certaines lesbiennes choisissent de faire des enfants avec dans un milieu de femmes, ou bien certaines lesbiennes qui sont mères, elles choisissent d'élever leurs enfants avec des femmes. Comment ça se passe? Il y a des femmes lesbiennes et mères qui se sont organisées pour discuter de ça.
Oui, en fait, la maternité chez les lesbiennes, c'est quelque chose qui est quand même relativement assez nouveau, c'est-à-dire qu'on a commencé à en parler il y a une ou deux années. Et effectivement, maintenant, de plus en plus, les lesbiennes qui ont des rapports avec les enfants en tant que mères ou autre chose, commencent à s'organiser de plus en plus. D'une part, déjà dans chaque ville, les lesbiennes qui ont des enfants créent des réseaux et une solidarité existe par rapport à la prise en charge de ces enfants. Que la lesbienne mère n'est pas la seule image et la seule possibilité de relation avec l'enfant. Et aussi,
depuis un ou deux ans, existent des rencontres au niveau international, en tout cas en Europe. Il en existe aussi aux États-Unis, mais je ne suis pas très bien informée sur comment ça fonctionne actuellement. Mais en tout cas, en Europe, il y a des rencontres qui se font à peu près tous les 3-4 mois. Et là, on rencontre plein de lesbiennes qui ont des enfants, ou d'autres lesbiennes qui ont envie d'avoir des relations avec des enfants sans qu'elles aient nécessairement envie de faire elles-mêmes des enfants. Et il y a toute une réflexion et plein de choses qui se passent par rapport à ça.
Puis des réseaux de solidarité aussi, non?
Effectivement, à travers ça, on crée des réseaux de solidarité par rapport à nos enfants, par rapport à nous, des réseaux de solidarité aussi pour aider les lesbiennes qui ont envie de faire des enfants par insémination artificielle, puisqu'on sait bien sûr que c'est toujours pas possible légalement ou même d'une manière privée, c'est extrêmement difficile. Alors il y a plein de réseaux qui se créent aussi sur ce plan-là.
Bon, maintenant j'ai une autre question qui est plus générale. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous répondez quand on vous accuse de vous désolidariser des femmes?
Moi je pense que c'est absolument pas vrai, comme on le disait.
De l'ensemble des femmes.
Oui. Ben, je pense que c'est pas vrai. Comme on le disait tout à l'heure, nous on demande plus pour les femmes que les féministes par exemple ont demandé pour elles. Ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de se désolidariser des hommes. C'est ça que j'entends quand on me reproche. En tant que lesbienne, dans mes revendications, dans mes luttes de lesbienne, je me désolidarise des femmes.
Un groupe de lesbiennes de Genève publie un journal qui s'appelle Clit 007, qui est un journal qui sort depuis déjà quelques années, je crois. Et puis, c'est un journal fait par des lesbiennes, qui s'adresse surtout aux lesbiennes. Et j'aimerais bien que vous me racontiez comment est-il ce journal, qu'est-ce qu'il y a dedans comme article, qu'est-ce qu'il représente pour vous.
Bon, il représente quelque chose de très important, d'autant plus qu'il y a extrêmement peu de journaux de lesbiennes en francophonie, en Europe généralement. Il représente donc un lien essentiellement, c'est-à-dire un moyen de faire diffuser, de faire connaître par d'autres lesbiennes qui sont peut-être isolées, qui vivent peut-être dans un endroit où il n'y a pas un groupe de lesbiennes, ce qui se passe dans le... quelles sont les idées courantes. Des manifestations qui ont lieu, d'en rendre compte, de faire part de réflexions, d'envoyer aussi peut-être des messages plus moteurs ou plus encourageants. En fait, Clit 007, c'est un pot pourri très souvent de toutes sortes de choses, mais qui montre quand même bien qu'est-ce qui se passe dans la mouvance lesbienne et qui est un arc-en-ciel dans la boîte aux lettres de lesbiennes isolées 4 fois par an.
Mm-hmm. Et puis, ouais, je trouve que Clit 007, c'est un journal qui développe un point de vue positif, je dirais presque triomphaliste, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire qui donne envie aux femmes d'être lesbiennes, d'être fortes, d'être indépendantes, autonomes, et qui développe très peu ou presque pas le côté victimiste, persécuté du lesbianisme, c'est de la situation des lesbiennes. Il y a pas cette composante, c'est pas un discours, un journal qui pleure sur les discriminations et qui ferait la liste de toutes les horreurs de la ségrégation et tout ça. On sent très bien que vous partez, que les femmes qui font ce journal partent de cette réalité-là pour construire autre chose. Donc il n'y a pas, je reviens toujours sur cette idée, qu'il n'y a pas des revendications précises qui pourraient être revendiquées, négociées avec un pouvoir, avec un mouvement qui se créerait autour d'une demande. C'est plutôt c'est autre chose.
Oui, je crois vraiment qu'il y a un certain courant militant curé qu'on a vraiment refusé et dont on veut vraiment plus. Je pense que tous les groupes de lesbiennes ne sont pas comme ça. Il y a d'autres journaux, comme par exemple le Parisien, où la ligne, la seule ligne, la vraie, la pure, existe quand même, est quand même un petit peu plus présent que chez nous. On se fait d'ailleurs critiquer d'être vraiment, d'avoir aucune théorie, etc., etc. Mais je pense effectivement que ça correspond vraiment à, un désir, disons, de ne pas retomber dans ce type de choses. Sinon, par rapport à la question de ne pas avoir de pas adopter un comportement victimisant, je crois qu'il y a une chose qui nous a beaucoup influencé. C'était un autre clit, c'était le clit américain. C'était un article qui était passé dans un journal de lesbiennes new-yorkais qui s'appelle Big April News et qui a été vraiment extrêmement fort pour nous toutes ici, qui disait le féminisme a tellement décrit ce que c'est l'oppression des femmes, il a tellement décrit dans tous ses plus infimes détails, et l'a analysé, et réanalysé, et décortiqué, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est trop maintenant, il faut décrire la stratégie de notre libération. Et c'est ça, je crois, qui nous pousse à adopter cette attitude.
Mais il n'en reste pas moins que être lesbienne, ça veut dire aussi être discriminée et subir toute une série de discriminations. Et comment parlez-vous de ces discriminations? À quel moment? Vous en parlez pas dans un journal? Comment vous en parlez de ce côté qui continue quand même à exister, le côté de ce que vous subissez, de ce qui vous différencie et vous rend, je sais pas, qui rend votre situation spéciale et différente de l'ensemble des femmes?
Je crois qu'il y a toutes sortes de groupes différents qui existent. Et par exemple, le QR en France, c'est un groupe qui priorise beaucoup plus cet aspect-là, justement, d'énoncer les discriminations et essayer de faire un travail presque, tu pourrais dire, syndical à ce niveau-là. Et notre groupe à nous, il n'a pas choisi véritablement cet axe-là. Il est un groupe qui vit certainement d'une manière plus « onarde », entre guillemets, que ces gens-là en France. Et de ce fait, ce n'est pas un aspect primordial pour nous. Pour nous, et comme un petit peu, en ce sens-là, on se sent très représenté par le titre de Clit 007, qui est concentré lesbien irrésistiblement toxique. Il y a un aspect, cet aspect-là, dans notre groupe, nous intéresse plus que la dénonciation plutôt syndicale des discriminations. Mais c'est vraiment très très bien qu'il y ait ces différents aspects qui existent dans le mouvement.
Et il y a d'autres publications de femmes lesbiennes en Suisse, par exemple à Zurich. Je crois qu'il y a un journal aussi qui est publié à Zurich.
Le Lesbian Front.
Puis c'est du même genre que Clit 007.
Non, je pourrais pas dire que c'est vraiment du même genre. Mais je lis moi-même pas tellement bien l'allemand pour répondre à ça.
Je crois que c'est des articles en général plus personnels.
Et puis à Zurich aussi, il y a des groupes, il y a au moins un groupe de lesbiennes qui fait ce journal. Et puis il y a un mouvement de lesbiennes assez fort aussi à Zurich. Mm-hmm. Est-ce que vous savez comment ça se passe entre lesbiennes et féministes dans le mouvement à Zurich?
Je crois que c'est des choses très similaires que ce qui se passe ici, simplement c'est pas toujours synchronisé. Bon, on n'a pas un contact continu, mais on se voit par exemple quand il y a des manifestations national, où on a fait aussi des rencontres lesbiennes suisses pour essayer de se voir entre romandes et suisses allemandes. Et dans ces occasions-là, on a vraiment pu voir que c'est le même type de problème auquel elles se confrontent face au MLF à Zurich et aux femmes du centre femmes, puisqu'elles sont toujours, utilisent toujours les locaux du centre femmes.
Est-ce qu'à Zurich, elles sont plus nombreuses et plus fortes qu'à Genève?
C'est difficile de dire. Vraiment une zurichoise.
On demandera aux zurichoises.